au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monique Cotteret. Monique Cotteret, bonjour.
Bonjour.
Monique Cotteret, vous êtes professeure d'histoire moderne. Rappelez-nous, ça couvre quel siècle ?
Du 16e au 18e.
À l'Université de Nanterre, où vous dirigez le Centre d'histoire sociale et culturelle de l'Occident. Vous êtes spécialiste des phénomènes politiques, religieux et culturels. Vous avez notamment publié « La Bastille à prendre », « Jansénisme et lumière », culture et politique dans la France des Lumières, et avec votre époux Bernard Cotteret, également historien, Jean-Jacques Rousseau en son temps. Aujourd'hui, Monique Cotteret, nous vous recevons pour tuer le tyran, le tyrannicide dans l'Europe moderne. Alors, tyrannicide, régicide, y a-t-il une différence ou pas du tout ?
Alors, d'abord, évidemment, ça ne peut pas se voir à la radio, mais tuer le tyran, c'est avec un point d'interrogation, et donc ce n'est pas du tout un manifeste, c'est vraiment un livre sur faut-il ou non tuer le tyran, quels ont été les différents arguments pour et contre. Le tyrannicide, le régicide, c'est la même chose, c'est le même acte. Mais du côté des partisans du roi, c'est un régicide, voire un parricide, puisque le roi est le père du royaume. Et du côté de ceux qui tuent les rois, eh bien, ils justifient le fait de les tuer en défendant l'idée que ce sont des tyrans. Donc le même acte peut être qualifié de régicide ou de tyrannicide. Mais dans le cas du tyrannicide, ce qui est intéressant, c'est que le même mot désigne l'acte et désigne l'auteur. Donc le meurtrier et son acte sont confondus dans un seul terme.
Ce qui n'est pas le cas du mot régicide.
C'est un petit peu différent, évidemment, oui.
Alors le rideau s'ouvre sur les premières pages de votre livre, sur la Florence du XVIe siècle. Lorenzo de Médicis, alias Lorenzaccio, vient de poignarder son cousin Alexandre. Et vous écrivez comme la politique, le tyrannicide moderne né dans la patrie de Machiavel. Expliquez-nous.
Oui, alors les tyrannicides, il y en a depuis l'Antiquité.
Depuis que l'homme est homme.
Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de très ancien. Mais avec Machiavel apparaît l'idée que la politique se justifie d'elle-même, que le religieux est un des éléments, mais qu'il n'est pas nécessairement déterminant. Or, au Moyen-Âge, la plupart des tyrannicides, même s'ils avaient une connotation politique, conservaient une très forte influence religieuse. Ce sera également le cas d'ailleurs avec les guerres de religion en fait. Mais dans la Florence et dans l'Italie du début du XVIe siècle, le religieux est très peu important et Lorenzo, pour justifier le meurtre de son cousin, n'utilise pratiquement aucune référence religieuse. Parce que Lorenzo m'a beaucoup intéressée parce que beaucoup de tyrannicides sont tués immédiatement après. C'est le cas de Jacques Clément. Donc on n'a pas tellement eu le temps de les interroger et ils ont rarement le temps d'écrire leur apologie. Alors que Lorenzo a vécu suffisamment longtemps pour faire l'apologie de son acte. Et donc dans cette apologie, rien de religieux. C'est une justification politique, purement politique, c'est au nom de sa conception de la République et de la citoyenneté qu'il a tué Alexandre, qui était devenu un tyran.
Donc cette phrase de Machiavel est en quelque sorte la clé de voûte de votre ouvrage.
Oui, elle marque quelque chose de nouveau, au moins dans la justification. Parce que dans la réalité, on peut penser qu'il y avait déjà des motifs politiques. Mais dans la justification, oui, c'est certainement un point.
Donc un tournant.
Un tournant.
Dans cette façon de concevoir le crime politique.
Un tournant qui va d'ailleurs durer très peu de temps, quelques décennies, puisque immédiatement après, on entre dans la phase des guerres de religion et à nouveau, le religieux devient le seul acte de légitimation du tyrannicide.
Et le tyrannicide, acte politique, reviendra quand alors, sur la scène politique ?
Alors, dans le cas de Charles Ier d'Angleterre, il y a beaucoup de religieux, mais il y a pas mal de politiques aussi. Et puis surtout, c'est avec Louis XVI. C'est au moment de l'exécution de Louis XVI que là, on est effectivement dans la justification politique et non pas religieuse.
Justement, nous allons prendre quelques exemples, Monique Cotteret, des exemples qui nous intéressent d'autant plus à Canal Académie que nous consacrons en ce moment plusieurs émissions au bon roi Henri IV, dont on marque en ces semaines que nous vivons les 400 ans du régicide ou du tyrannicide, comme vous l'entendrez, comme vous le souhaiterez. Alors donc, il y a l'assassinat d'Henri IV par la main de Ravaillac, mais juste auparavant, il y avait eu également l'assassinat du dernier des Valois, Henri III, par la main de Jacques Clément.
Oui, je pense d'ailleurs que puisque c'est une histoire comparée de la violence en Europe que j'ai essayé de faire, je crois que malheureusement la France tient la tête, puisque nous avons tout de même 3 rois assassinés, plus Louis XV et une tentative...
Alors citons-les, ces rois. Alors.
Donc nous avons, pour ceux qui en sont morts, nous avons Henri III, Henri IV, Louis XVI évidemment... Et puis au milieu, cette tentative contre Louis XV, sans parler des tentatives contre Henri IV, avant Ravaillac, il y en a au moins une vingtaine.
Au moins une vingtaine, oui. Il avait été blessé sérieusement à la lèvre avant de...
Oui, effectivement. Et puis il y a eu toute une série de tentatives. Il a eu beaucoup de chance, finalement. Parce que ce n'est...
De rester en vie, oui. Malgré les batailles qu'il a menées et malgré les tentatives
d'assassin. Et le panache blanc, en plus.
Et le panache blanc, aussi.
Qui n'est pas une légende. Oui.
Qui affichait sa visibilité et sa présence au combat. Oui. Et voilà. Et sur la scène politique. Alors, comment Henri IV, que certains ont surnommé le bon roi Henri, redevint ou devint un tyran? C'est ce que vous expliquez, page 146 de votre ouvrage.
Oui, nous avons généralement au XXIe siècle une vision très glorieuse d'Henri IV. C'est le bon roi par excellence. Curieusement, cette vision glorieuse, j'ai bien envie de dire que nous la devons à Ravaillac. Parce que c'est du jour où Ravaillac a planté son couteau dans Henri IV qu'il est brutalement devenu populaire. C'est comme si tout d'un coup, les gens s'apercevaient de ce que ce roi avait pu apporter au royaume.
Oui, vous écrivez « Henri IV, bien plus grand, mort que vivant ». Il devint pratiquement intouchable, mort.
Oui, une fois mort, tout le monde le célèbre, réalise à quel point on a beaucoup perdu. Et c'est quelque chose de... Alors évidemment, il y a les oraisons funèbres, mais ça, on sait que c'est rarement plus menteur qu'une oraison funèbre. Mais c'est l'opinion, c'est le...
C'est la légende qui se met en place autour du roi aussi.
Oui, le roi avait essayé de développer cette légende de son vivant. Hein. C'est-à-dire que c'était un très grand politique et il y avait tout un service de propagande très bien organisé, on dirait de communication de nos jours, qui diffusait l'image du bon roi Henri. Mais de son vivant, il gardait tout de même une très forte opposition. Et il faut vraiment qu'il soit mort pour que la légende s'impose.
Des similitudes entre l'assassinat, le tyrannicide d'Henri III, le dernier des Valois, et celui du premier des Bourbons, Henri IV. Des analogies ou pas du tout? Des gestes?
Des analogies, oui, bien entendu. D'abord, il y a différents types de tyrannicide. Il y a différentes façons d'exécuter un roi. On peut lui faire un procès et l'exécuter publiquement, comme on peut l'assassiner par un individu. Et généralement, c'est le poignard. Il y a évidemment aussi le poison, mais c'est moins spectaculaire. Alors, quand un individu décide de tuer un roi parce qu'il pense que c'est un tyran, c'est généralement au XVIe ou XVIIe siècle parce qu'il pense avoir une inspiration divine. C'est-à-dire qu'il est persuadé que c'est Dieu qui le commande. Et on appelle ça à l'époque une vocation extraordinaire. C'est-à-dire que, de même que Judith a été suscitée par Dieu pour aller tuer le général Holoferne et défendre Béthulie contre Nabucodonosor, eh bien de même, Jacques Clément comme Ravaillac sont persuadés d'avoir eu cette impulsion divine à laquelle évidemment ils ne peuvent pas résister et qui les conduit à tuer le roi.
Cette référence biblique ouvre le chemin, en quelque sorte.
Tout à fait. Et alors, dans le cas de Clément, Clément est un jeune moine un peu simplet. Et donc, eh bien, c'est vraiment l'exemple type, puisque Judith est une femme. Or, une femme, c'est nécessairement un peu simplet, un peu innocent et un peu débile, mais au sens de l'époque, hein, au sens très très fort de l'époque. Et bon, bah, Ravaillac, c'est pareil. C'est quelqu'un qui vient de ce qu'on appelle le bas peuple et qui ne peut agir que par vocation extraordinaire.
Oui, mais alors, est-ce que ce sont des individus qui, justement, ont opéré seuls ou est-ce que d'autres individus ont chargé ce bras, comme vous le disiez, débile et un peu incertain, d'une tâche.
C'est évidemment la grande question sur laquelle les historiens travaillent depuis très longtemps sans avoir de réponse claire, ferme et tout à fait satisfaisante. Bon, de toute façon, il y a le climat. Dans l'affaire Henri III, on est au moment de la Ligue et il y a une telle haine de Henri III, il y a des pamphlets tellement violents qui appelle au meurtre d'Henri III, que ce pauvre Jacques Clément, enfermé dans Paris, puisque Paris était assiégé par Henri III et Henri de Navarre, il est dans ce climat où, de toute façon, on appelle au meurtre d'Henri III. Alors, est-ce qu'il a été directement utilisé par certains ? Ce n'est pas totalement exclu, parce que pour quelqu'un de simplet, il arrive à sortir de Paris et il arrive à avoir accès au roi. Donc, on peut supposer qu'il a été aidé, qu'il y a eu des complicités. Autre possibilité, autre éventualité qui va dans le même sens de la complicité, c'est qu'il est tué sur place. Or, évidemment, s'il est tué sur place, c'est peut-être aussi parce que certains sont soucieux de ne pas le faire parler. Parce qu'avec la torture, on finissait toujours par parler.
Là, c'est beaucoup plus simple.
Voilà. Donc là, c'était...
radical.
C'était quelque chose de réglé, effectivement. Donc, si vous voulez, on n'a pas véritablement trouvé ceux qui étaient derrière, mais bon, dans Paris, vous aviez tous les partisans de la Ligue qui disaient ouvertement qu'il fallait tuer Henri III. Donc... il était dans ce climat.
Alors, ce climat se perpétue sous Henri IV ?
Oui, oui, oui. Enfin, ce climat se perpétue, je dirais, jusqu'en 1595, puisque malgré tout, il y a l'absolution romaine. Hein. Bon, alors à partir de là, il y a encore quelques jésuites qui résistent, mais pour beaucoup, il y a quand même un certain ralliement à Henri IV.
Alors justement, le cas des jésuites, donc ils sont chassés hors de Paris, hors de France, à partir de quelle date et par qui,
alors,
rappelez-nous.
D'abord, ils sont toujours très mal vus par les évêques, par les autres ordres religieux, parce qu'ils ne dépendent que de Rome. Hein, donc, il y a toujours une petite suspicion à leur égard. Et donc, comme ils ne dépendent que de Rome, ils défendent l'idée que le pape, souverain ou spirituel, mais ça, personne ne le conteste à l'intérieur du catholicisme, a aussi une puissance temporelle. C'est-à-dire que si un roi est hérétique, il a le droit d'appeler à le détrôner. C'est ce qu'a fait Pie V avec Élisabeth d'Angleterre. Donc, ces jésuites ne sont pas toujours très très bien perçus par les autres ordres religieux. Il y a aussi le fait qu'ils sont de très bons enseignants, qu'ils ont beaucoup de succès, donc il y a parfois des jalousies à leur égard. Alors, ils ont été chassés de Paris après la tentative de régicide de Jean Châtel contre Henri IV. Mais Henri IV les aimait bien. Et en fait, c'est Henri IV qui les a fait revenir en 1603. Et c'est là qu'il choisit comme confesseur le fameux Père Coton, un jésuite, hein, et tous les protestants autour d'Henri IV disaient « il a du coton dans les oreilles », ce qui évidemment n'était pas très flatteur.
Oui, parce que Ravaillac se répand. Ravaillac a des visions, Ravaillac a des cauchemars qui le font se prendre pour un sauveur de sa nation.
Oui, oui. C'est tout à fait. Alors, Ravaillac, il n'est pas tué sur place. Là, le duc d'Épernon indique bien qu'il faut le protéger, donc on a son procès, donc on connaît effectivement ses motivations. Et il répond tout à fait à cette vocation extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est poussé à tuer le roi par une impulsion divine.
Mais il en parle à des jésuites.
Oui, il parle des jésuites, et Châtel aussi. Hein. Châtel dit que les jésuites enseignent que si le roi est hérétique... il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Hein. Donc, il y a toujours cette espèce de frange possible pour légitimer un régicide. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a passionnée dans cette question, même si elle est brûlante et parfois un peu rude, c'est que le régicide ou tyrannicide, c'est l'acte abominable. C'est tuer le père, c'est l'acte qui détruit la société, c'est la violence suprême, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et en même temps, c'est en permanence un acte qui trouve sa justification, qui trouve des savants pour expliquer, légitimer l'acte impossible.
Un autre académicien, Jules Michelet, raconte, en parlant de Ravaillac, qu'il vit bien qu'il était destiné à une grande chose. Il avait été jusque-là étranger à la théologie. Il s'y mit, lut, étudia, mais une seule et unique question. Le droit que tout chrétien a de tuer un roi ennemi du pape. Qui lui prêta ses lectures? Qui le dirigea? C'est ce qu'on n'a pas voulu trop éclaircir au procès. Vous êtes d'accord? Ce procès a été rapidement fait?
Oui, le procès a été rapidement fait, mais en même temps, il fallait réagir très très vite. Donc, c'est un petit peu logique. Très vite, se sont trouvés plus ou moins suspects des gens qui étaient quand même très très proches de la reine, dans l'entourage de la reine. Donc, on ne voulait surtout pas aller trop loin.
Alors justement, les suspects. Donc, il y a d'abord ce fameux duc d'Épernon.
Oui, oui.
Donc,
oui.
Un opposant... À Henri IV ?
Un opposant comblé de pensions, de faveurs, de gloire. Alors évidemment, Henri IV lui donnait d'autant plus de pensions et de faveurs qu'il ne lui donnait pas de pouvoir réel. Mais bon, de là à aller dans la préméditation d'un assassinat, j'avoue que je suis un peu... Bon, je ne sais pas. On ne sait pas.
Parce que ce serait donc d'Épernon qui, s'intéressant à Ravaillac, le chargea d'aller solliciter un procès. Et donc, c'est lui qui le met sur le chemin de retourner sur Paris.
On n'a strictement aucune preuve.
On
ne peut absolument pas aller dans un sens quelconque.
Alors, l'académicien Jean-Pierre Bablon, justement, lui, pense que Ravaillac a agi seul.
Oui,
c'est une version.
Oui. Alors, comme Monsieur Bablon est vraiment le très très grand spécialiste d'Henri IV, je pense que son raisonnement est tout à fait important. Honnêtement, moi, je ne sais pas. Oui, je pense plutôt que c'est le climat d'ensemble, c'est l'atmosphère qui conduit un Jacques Clément ou un Ravaillac. Mais évidemment, il est tout à fait impossible de démontrer une chose ou de démontrer son contraire.
Alors, dans les...
Ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça laisse du travail aux historiens. On peut toujours émettre des hypothèses, rechercher des documents. C'est ça l'histoire.
Alors justement, Jean-Pierre Bablon, on pose la question, Ravaillac a-t-il travaillé pour Marie de Médicis? Dans la liste des suspects possibles, Marie de Médicis et son amant Concini?
Je ne pense pas que Concini était l'amant de Marie de Médicis, ça je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, mais bon, là encore...
Ce sont de vilains bruits.
Oui, ce sont
sur la réputation de la reine,
épouse
d'Henri IV.
Ce sont des rumeurs. Concini, c'est l'étranger. Donc, contre l'étranger, toutes les rumeurs sont permises. Et on a beaucoup mis de choses contre Concini. Non, là, je ne crois pas que la piste Marie de Médicis ne me paraît pas non plus très crédible.
On a parlé d'une certaine Galigaille.
Alors, la Galigaille, c'est la femme de Concini, mais en même temps, elle est très proche de la reine-mère. Donc, je vois mal les raisons et l'organisation d'un tel complot. Ça me paraît hautement improbable.
Donc, quelle est votre version des choses, vous qui avez mené l'enquête?
Moi, je pense que dans le cas de Clément, comme dans celui de Ravaillac, comme dans ceux qui ont précédé, on a des individus peu savants, des individus venant de... Clément vient de la campagne, Ravaillac vient d'Angoulême, il a été instituteur, mais... On le payait en nature, donc il ne devait pas rouler sur l'or. On a des individus un peu fragiles intellectuellement et socialement, dans un climat d'affrontement religieux très dur, d'anathème. Donc, tout naturellement, j'ai envie de dire, ces êtres déséquilibrés se laissent emporter, peut-être manipulés plus précisément, mais ça on ne le sait pas, mais en tout cas emportés par une atmosphère. Vous savez, le cas de Jean Châtel est quand même absolument prodigieux. Donc c'est celui qui finalement enlève une dent à Henri IV, qui avait une baraka absolument invraisemblable, parce qu'il se baisse au moment précis où l'autre veut lui donner un coup de couteau. Donc c'est quand même, il visait à la gorge, parce que le roi était tout à fait chaudement vêtu. Et comme Henri IV se baisse, on lui enlève une dent, ce qui ne doit pas être très agréable, mais évidemment, ce n'est pas très dangereux. Eh bien, ce cas de Châtel est tout à fait intéressant. C'est quelqu'un qui se croyait damné. Ce n'est pas une mince chose de se croire damné au XVIe siècle. Et donc, il se dit, puisque... Alors, pourquoi se croit-il damné ? Alors, crime inceste, on ne sait pas exactement, mais ce crime odieux d'origine sexuelle, en plus, il ne l'a pas avoué en confession. C'est encore plus grave, parce que comme il a menti en confession, là, il est bon pour l'enfer.
Pourquoi dites-vous un crime d'origine sexuelle ?
C'est ce qu'il évoque hein, quand il est interrogé. Alors, on ne sait pas si c'est un inceste, on le soupçonne, mais on n'en est pas sûr, ou de l'homosexualité, donc il y a un doute sur la nature du crime, je mets évidemment des guillemets. Et on ne sait même pas si c'est un crime réel ou si c'est un fantasme. C'est un personnage totalement torturé. Et donc, comme il se sait ou comme il se croit damné pour l'éternité, il se dit qu'il faut faire quelque chose d'agréable à Dieu pour être sauvé dans l'éternité. Et la seule chose qu'il trouve pour être agréable à Dieu, c'est d'aller tuer le roi. Et plus il souffre, plus il est content. Parce qu'il espère, grâce à cette souffrance sur terre, gagner la vie éternelle.
On a dû lui expliquer que tuer un roi, c'était une bonne action.
Bien sûr, c'est parce qu'on le dit. Alors lui, en plus, il explique que ce sont les jésuites en particulier qui ont tenu ce discours devant lui. Donc oui, on le disait. Mais heureusement, tous ceux qui entendaient un tel message n'allaient pas tuer les rois.
Oui, oui, c'est ce climat que l'on ressent, ce climat où les choses se disent, sous cap, sous couvert, oui. Où le bruit circule, où on sent qu'il y a un danger immanent, rôdant autour de ces deux rois, et qu'au niveau des forces de police, au niveau des forces de sécurité, rien n'est entrepris
Rien. Alors, de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que la monarchie a toujours eu des forces, même sous Louis XIV, il y a très peu de forces défensives. Ce qui protège le roi, c'est avant tout l'amour de ses sujets. Et donc là, oui, la façon dont Jacques Clément arrive auprès d'Henri III, c'est pour nous tout à fait déconcertant. Henri III est, pardonnez-moi l'expression, mais à l'époque on était plus direct, il est à ses affaires, c'est-à-dire qu'il est sur la chaise percée, donc évidemment pas dans une situation où il va être prêt à se défendre. Hein. Et donc ce moine arrive, il dit
qu'il a... Donc dans des appartements personnels.
Voilà, il dit qu'il a des révélations à faire, il demande à parler seul au roi, tout le monde s'écarte, et là il fait semblant de sortir un papier de sa manche et il sort un poignard.
Enfin, c'est quelque chose d'incroyable.
Oui, c'est vraiment intéressant. Enfin, pour nous, ça paraît
difficile. On dirait que le tapis rouge
a été déployé pour qu'il puisse agir plus facilement.
Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monique Cotteret. Monique Cotteret, vous écrivez « C'est ici l'histoire politique d'une idée où la mort entretient des relations privilégiées avec le sacré ». Alors, politique, sacré, expliquez-nous.
C'est-à-dire, si vous voulez, la violence politique, elle est constante. Le XXIe siècle a sa part également. Donc pour moi, il s'agissait de savoir quand je m'arrêtais. Hein. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé de m'arrêter à Louis XVI, parce que dans l'exécution de Louis XVI, qui est évidemment une exécution politique, il y a malgré tout une grande part de sacré. C'est le roi...
C'est le symbole voilà, de la royauté.
Auquel on a cru longtemps, très très longtemps. Louis XVI a été populaire très très longtemps. Donc c'est ce symbole que l'on élimine. Il y a de la violence politique sous Napoléon, il y a des tentatives d'attentat au XIXe siècle, mais il me semblait qu'elles avaient moins de rapport avec le sacré.
Tandis qu'au niveau du cas Henri IV, cette notion du sacré se loge où alors ?
C'est... Ravaillac est mu par le sacré. Jacques Clément comme Ravaillac sont des émules de Judith, et c'est donc pour faire régner la gloire de Dieu qu'ils éliminent l'hérétique. C'est
l'hérétique, comme ça. Ils éliminent voilà. Le protestant.
C'est comme ça qu'ils le voient. C'est comme ça qu'ils le voient. Alors ça s'est un peu arrêté au moment où l'absolution pontificale a été donnée à Henri IV, mais en 1610, donc au moment où il est assassiné, il y a un très très fort mécontentement contre lui parce qu'il va repartir en guerre, et il va repartir en guerre contre des princes catholiques du côté de princes protestants. Donc, on se souvient qu'il a été protestant, on se dit qu'il est mal converti, que l'édit de Nantes est beaucoup trop favorable pour les protestants. Vous voyez, toute une série d'arguments qui avaient été un peu étouffés par l'absolution pontificale rejaillissent en 1609-1610.
Mais est-ce qu'on peut dire que le geste de ces individus, donc de ces deux individualités, ce geste rejoint en quelque sorte un contexte de pensée générale par rapport au sacré, par rapport à la religion. Est-ce que c'est l'expression d'un souhait général de la part des citoyens de l'époque ?
Oui. Je pense que le catholicisme de l'époque, notamment, a été absolument traumatisé par la déchirure que représente la réforme. Et donc, les souverains pontifes, mais également toute la hiérarchie catholique, est absolument persuadé que le pape a le droit de condamner le souverain hérétique. Et ça, évidemment, tous ceux qui suivent cette conception se trouvent légitimés dans leurs actes de violence, puisque c'est la plus haute autorité, c'est le pape même qui autorise cet acte.
Alors, même si ces tyrannicides sont l'expression d'un mouvement ou d'une pensée ou d'une réaction populaire ou autre, pas de pitié pour le tyrannicide. Ils sont soumis à des tortures, à des morts horribles.
Non, parce qu'en tuant le roi, ils ont tué l'unité du royaume. Donc, il s'agit de les faire souffrir. Il ne s'agit pas simplement de les éliminer. Il faut vraiment... La souffrance fait partie du rituel. Et puis, alors, je pense que l'écartèlement, très symboliquement, ils ont essayé d'anéantir le royaume, donc il faut les anéantir, écarteler leur corps, ensuite brûler les restes, éparpiller ces restes, pour que véritablement le souvenir de l'acte disparaisse avec eux.
Oui, donc l'académicien historien Jules Michelet, je le cite, a écrit « Ravaillac ne chercha pas à fuir ». On eut grand-peine à empêcher le peuple de le mettre en pièces, comme vous le disiez. Enfermé près de là, dans l'hôtel de Retz, on parut pendant 9 jours l'y oublier, de sorte que beaucoup de gens purent le voir et lui parler. C'est ce que vous nous disiez, Monique Cotteret.
Oui,
le Parlement mena ensuite rondement le procès. Ravaillac fut condamné le 27 mai à être tenaillé aux mamelles et aux membres, avec versement dans les plaies de plomb fondu et d'huile bouillante, à avoir le poing droit brûlé au feu de soufre, pour être ensuite écartelé et ses restes réduits en cendres et jetés au vent. L'écartèlement, dit le procès-verbal, dura une grande heure. Le peuple furieux s'était de lui-même mis aux cordes. Les juges ne lui trouvèrent pas ou n'osèrent point lui trouver de complice.
C'est la liturgie de l'exécution du régicide. Pour Damien, qui a à peine blessé Louis XV, puisque Damien ne voulait pas tuer le roi, il voulait simplement le toucher.
Un petit rappel sur ce Damien.
Alors Damien, c'est au XVIIIe siècle, donc en 1757, et il trouve que Louis XV se laisse manipuler par son archevêque, donc il veut l'archevêque de Paris, les querelles jansénistes, et donc il veut toucher le roi, et le toucher physiquement et l'émouvoir. Et en fait, il a un couteau à deux lames, une qui relève plutôt du canif, c'est celle-là qu'il utilise. Donc Louis XV, enfin, il s'évanouit, mais c'est surtout parce que pour le soigner, on lui fait une saignée, ce qui évidemment
n'arrangeait
pas les choses.
Il est saigné de tous les côtés, le
voilà.
Pauvre.
Mais sinon, il aurait pu être rétabli immédiatement. Mais ceci dit, comme il s'en est pris au roi, il a exactement le même supplice, hein, ce qui évidemment paraît disproportionné à nos yeux.
Alors, quand c'est l'expression de tout un peuple, de la nation parisienne, la décision de toutes ces assemblées politiques qui se créent concernant le roi Louis XVI, peut-on parler de tyrannicide quand c'est l'expression populaire qui va exécuter et peut-être pas assassiner un roi ? Quelle position,
alors, bon,
Monique
Cotteret ? C'est évidemment, Louis XVI, c'est évidemment un cas tout de même très différent. D'abord parce que, curieusement, c'est un roi qui a été très longtemps très populaire. Moi, c'est tout de même ce qui me frappe le plus dans le cas Louis XVI, c'est que, je dirais, jusqu'à sa tentative de fuite, donc en 91, on accuse la reine, on accuse les aristocrates, on accuse tout le monde, mais le roi demeure un bonhomme. Enfin, on l'aime bien. C'est un petit peu, à la limite, un bonhomme un peu naïf qui se laisse mener par sa femme. Mais il y a quand même beaucoup de sympathie à l'égard de Louis XVI. Or, quand il fuit donc vers la frontière pour retrouver les troupes émigrées, il laisse un texte aux Tuileries. Et ce texte est évidemment tout à fait dramatique parce qu'il explique que tout ce qu'il a fait depuis 89, il l'a fait sous la contrainte et que donc il veut revenir avec ses soldats, il veut remettre de l'ordre et revenir à l'état du 5 mai 89, donc au tout début des états généraux. Donc là, il y a brutalement la conscience de la part du peuple que ce roi a mené double jeu depuis 3 ans, hein, puisque entre-temps, il a prêté serment à la Constitution un nombre de fois relativement incalculable. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un retournement. Et c'est à partir de cette fuite manquée, en plus, qu'on a des caricatures contre Louis XVI qui reprennent un peu de la violence des caricatures qu'on avait eues contre Henri III.
Alors, une fois toutes ces recherches, toutes ces études, toute cette enquête menée par vous, Monique Cotteret, terminée, quel est votre ressenti, quelle est votre réflexion qui finalise un peu tout ce travail, qui vient en point d'orgue au-dessus de tout ce travail ?
Oui, d'abord je pense que j'ai peut-être réussi un petit peu à organiser tous ces tyrannicides en disant qu'il y a ceux qui se réclament de Judith, ceux qui se réclament de Brutus. Et j'en ai fait donc ce mariage, ces enfants de Judith et de Brutus.
Vous les avez encore bien serriés en tête,
en
mémoire. Alors, par exemple, du côté Brutus, on mettrait qui alors ?
Alors, du côté Brutus, ben, c'est le...
C'est-à-dire le crime politique.
C'est le beau XVIe siècle, c'est Lorenzo... Lorenzaccio de Musset. Et c'est évidemment Louis XVI. Enfin, on est là dans la politique. Et il me semble que la plupart des autres relèvent beaucoup de Judith. Il y a une motivation qui est la motivation à la Judith.
Et aujourd'hui, les crimes politiques auraient ces mêmes connotations ou est-ce qu'il y a d'autres complications ?
Fort heureusement, dans la démocratie, nous avons un moyen tout à fait performant pour se débarrasser d'un gouvernant que nous n'aimons pas, ce sont les élections. Hein. Donc là, je pense qu'il y a quand même un énorme progrès et qu'il ne faudrait pas revenir en arrière. Sinon, dans la violence politique...
Dehors des élections, il y a de la violence politique, on a vu ça avec JFK Kennedy.
Absolument. Donc là, c'est une violence politique. Je pense en plus qu'il y a des complots tout à fait particuliers. Et puis, il y a tout de même ce retour du religieux. Malheureusement, on ne peut pas le nier. Là. Il y a du fanatisme religieux de nos jours.
Monique Cotteret, merci d'avoir partagé ce temps de réflexion autour de votre ouvrage paru chez Fayard, « Tuer le tyran, le tyrannicide dans l'Europe moderne ». Merci de votre venue.